Alors tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation des journées médicine de m'avoir invité, et en particulier à Stéphane Renaud. Alors je vais vous faire un petit retour d'expérience sur un journal scientifique que j'ai moi-même développé avec ma collègue Maëva Orliac. Nous sommes tous les deux à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Donc il s'agit de Morphomuseum, un journal scientifique pour publier des spécimens virtuels. Alors c'est à la fois un journal de données, un journal scientifique classique. Alors pour simplifier, depuis environ 30 ans, l'acquisition des données 3D par différentes techniques est devenue très très populaire et a pris un essor considérable en biologie en particulier. Pour vous situer ce que je fais au quotidien, je m'occupe d'une machine comme ça qui est un scanner, un microtomographe par rayon X qui permet d'obtenir des données 3D à partir d'un échantillon de manière non destructive. Là par exemple on a ici un crâne de lémurien, on le met dans la machine et on obtient après un traitement de données des coupes virtuelles, donc c'est une information 3D qui correspond grosso modo à la densité X, Y, Z à un endroit donné. À partir de ces coupes virtuelles, on va produire ce qu'on appelle des modèles 3D, donc c'est des modèles surfaciques qu'on va pouvoir par exemple mettre dans les imprimantes 3D. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que ces modèles 3D, on va les publier en fait pour qu'ils soient réutilisables par la communauté scientifique au-delà d'une publication dans un article. Donc comme ça a été aussi souligné ce matin, on est dans une ère où on a besoin de plus en plus d'échanger des données et de les réutiliser. Et c'est ainsi que Maëva Orliac et moi-même avons eu l'idée de créer un journal de données qui s'appelle Morphomuseum. Voilà. Donc cette idée, elle est venue, on l'a eue en 2013 à peu près, et on s'est posé assez vite la question de quel outil on allait utiliser pour faire ce journal. Alors à l'époque, il y avait OJS, que j'ai assez rapidement écarté, parce qu'il ne pouvait pas, et j'ai l'impression qu'il ne le fait toujours pas d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'outil pour intégrer facilement les données 3D. Et après un bref tour d'horizon, je me suis dit... Si je devais développer quelque chose au-dessus de ça, ça allait être vite infernal. Et donc j'ai préféré m'orienter vers une solution maison, c'est-à-dire de faire toute la chaîne de traitement éditorial moi-même. Voilà, ce qui est un choix qui a des avantages et aussi des inconvénients. Et donc ce que j'ai utilisé, c'est un framework PHP, CakePHP, et puis pour la visualisation des données 3D, j'utilise une solution open source qui est développée par des Italiens, qui s'appelle StudiHop, et qui est vraiment très bien. Alors, donc oui, comme je le disais, j'ai tout fait de A à Z. Ce qui n'était pas un travail non plus énorme, en 6 mois à peu près c'était fait, et en ne faisant pas que ça en fait. Voilà, donc... grosso modo, qu'est-ce que c'est Morphomuseum? C'est une plateforme en ligne pour publier et stocker aussi des spécimens virtuels. Alors, une publication, ça se traduit toujours par un PDF, au moins une courte note, hein, qui est une notice minimale, qui va décrire un peu ce qu'on met comme modèle 3D. Et puis, on va y associer des modèles 3D, donc ce genre de choses, un ou plusieurs, en fait, on peut en associer plein. À une petite note comme ça qui est un PDF, et on va donner un DOI à ce PDF et puis à chacun des modèles 3D des DOI aussi. Alors on a eu l'idée en 2013 et puis on l'a lancé en 2014 en septembre, donc aujourd'hui ça fait pile 4 ans que c'est lancé, donc c'est un bon moment pour faire un petit bilan. Alors les publications, elles viennent en deux sortes, en fait elles sont de deux sortes. Il y a un peu ce qu'on pourrait dire notre produit d'appel. Voilà, les chercheurs vont produire des modèles 3D et puis les publier, les analyser dans une, une revue typiquement à haut impact facteur. Et puis, comme ils ont envie de partager leurs données 3D, ils vont déposer ces données 3D dans Morphomuseum. Et nous, on va quand même produire un autre PDF qui contient pas du tout ce qui est dans l'article original, on va dire, mais qui est au moins la notice de ce qu'il y a comme modèle 3D associé. Voilà, donc ça, c'est le produit d'appel. Et puis, notre but avoué, c'est de créer un journal avec des articles conventionnels, donc plus des articles de fond, où on a une chaîne de traitement éditorial classique avec peer review, etc. Donc un article conséquent et les modèles 3D. Voilà. Alors, une des grosses difficultés, parce que ce qu'on veut produire, c'est ce genre de choses, enfin ce qu'on veut publier, c'est ce genre de choses, donc c'est des modèles 3D assez compliqués. Par exemple, ici, on a un squelette de poisson qui a été annoté par un chercheur. Donc tous les os ont été coloriés, et puis il a mis des petits drapeaux pour identifier les structures. Et donc, pour produire ce genre de choses, il faut des outils. Et c'est là où j'interviens encore une fois. C'est que j'ai mis en ligne sur ce site un outil de traitement de données 3D qu'on peut télécharger, qui est open source, que vous trouvez sur GitHub ou sur le site, et qui est un développement 100% maison également. Voilà. Alors, grosso modo, ce compagnon de Morphomuseum, qui s'appelle Morphoding, il permet, à partir d'objets 3D comme ça, qui ont été scannés un par un, de les déplacer pour reconstituer par exemple un modèle 3D. Ici, on a un rat géant éteint qui vient des îles Canaries, qu'on a scanné. On a réussi à trouver un squelette complet. Puis là, j'avais mis un Master 2 dessus pour qu'il reconstruise le squelette 3D. Donc avec cet outil, ça se fait assez facilement, puisqu'on peut aussi annuler des choses qu'on a faites, etc. Moi, je travaille en paléontologie, en fait, beaucoup, et la question se pose souvent de reconstruire des objets abîmés. Donc il y a des fonctions un peu toutes bêtes pour faire des images miroirs. On peut peindre en 3D sur des modèles anatomiques, avec des choses comme le lasso, des pinceaux, des pots de peinture, des choses pareilles. Et puis mettre des petits drapeaux pour identifier les structures. Voilà, donc ça c'est une petite présentation de ce que le logiciel peut faire. Il peut faire plein d'autres choses, mais je ne suis pas sûr que ça vous intéresse beaucoup. Donc, pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé depuis 4 ans, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, notre but, c'est de faire des articles scientifiques conventionnels. Bon, on a publié 7 articles. Alors, le bilan, il est assez modeste. Bon, je vais vous dire, ce journal, c'est pas mon activité à temps plein, c'est 5% ou 10% de mon activité, donc ça va. Donc, on a quand même publié 7 articles conventionnels, et puis quand même 40 jeux de données. Alors c'est pas trop mal, et dans ces 40 jeux de données et 7 articles, il y a presque 290 spécimens impliqués, et ces jeux de données ont été téléchargés au moins 50 000 fois par des adresses IP uniques, donc c'est pas trop mal. Donc c'est un succès, on va dire, modeste, c'est pas la folie, mais c'est pas un échec non plus retentissant. En revanche, pour ce qui est d'avoir un impact factor, on s'était dit un peu naïvement que ce serait assez facile d'avoir un impact factor au bout de quelques années, mais on ne sait pas pour aujourd'hui. Alors, à propos de la solution technique qui a été adoptée, donc c'est une solution que j'ai développée moi-même, je n'ai pas pris OJS ou ni un autre outil. Alors les avantages, c'est que j'ai pu développer plein de choses qui n'existaient pas ailleurs, donc... Surtout toutes les métadonnées associées au modèle 3D. Gérer un spécimen, c'est gérer plein de métadonnées, notamment la collection à laquelle il appartient, à quelle espèce il est rattaché, etc. Où il a été pris. Et puis le choix technique de 3DHOP, c'était pas mal, parce qu'il permet de stocker et de visualiser des grosses données facilement. Ensuite, c'est une solution qui a coûté pas grand chose, hormis mon salaire. C'est quand même de l'argent public. Mais en termes d'infrastructure, hein, on va dire, c'est peu d'argent, puisque dans notre politique éditoriale, on ne va pas autoriser les personnes à déposer des gros jeux de données. Parce que les techniques de production de données 3D, ça arrive que, enfin, de plus en plus, elles produisent des jeux de données immenses, mais nous, on interdit de mettre des choses de plus de 500 mégas. Donc ça ne coûte pas grand-chose, et puis on a un petit serveur au laboratoire, donc ça ne coûte vraiment rien. En revanche, je ne vous cache pas que c'est une grande faiblesse, ce choix technique, sur le long terme, parce que tout repose sur moi. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème et que je suis ailleurs, voilà, ça attend. Je dois corriger des bugs, je développe des nouvelles fonctionnalités. Et puis aussi, tout ce qui n'est pas du tout mon cœur de métier, genre la diffusion, la promotion de ce qui sort de ce journal, c'est pas, ça repose sur nous et ce n'est pas facile à faire. L'archivage, il va falloir qu'on l'externalise aussi assez rapidement. Voilà, donc sur le long terme, c'est une solution fragile. Et puis, à la base, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dans le milieu de l'édition. Et donc, j'ai trouvé qu'il était difficile de faire partie d'un... Enfin, je fais toujours partie, hein, mais d'éditer des données scientifiques et des articles scientifiques. Alors, en particulier pour les jeux de données, la plupart des auteurs ne respectent pas les instructions aux auteurs. Donc, je ne demande pas grand-chose, c'est que les modèles soient à l'échelle et puis orientés d'une manière pas complètement folle. Voilà, bon. Bon, néanmoins, quand même, il y a des auteurs, en plus des gens qu'on ne connaît pas du tout, et qui ont publié des modèles super. Donc ça, on est très contents. Donc pour le traitement des données, parce qu'au-delà de la couche vraiment le texte scientifique, il y a toutes les données 3D. Je finis souvent par corriger les mauvaises données moi-même, hein, parce que je ne peux pas me permettre de rejeter... certains jeux de données qui viennent, parce qu'on n'a pas énormément de soumissions. Et puis, il y a beaucoup d'actions qui nécessitent mon intervention personnelle. Voilà, il y a des choses que je n'arrive pas à automatiser encore aujourd'hui. Et enfin, pour ce type de journal où il y a des données 3D qui sont complexes, le problème, une grosse difficulté qu'il y a, c'est que pour vraiment s'impliquer tellement dans la chaîne éditoriale, c'est qu'il faut avoir des compétences techniques. Dans mon milieu, il n'y en a pas tant que ça. Mon scientifique, ça, on les trouve. Hein. Et donc, pour certaines actions, je ne peux pas... alors, j'ai fait la pub à plein de chercheurs que je connais pour faire partie du comité éditorial. Ils ont accepté, mais pour... plein de tâches concrètes, je ne peux pas leur demander ça parce que ce n'est pas du tout leur métier. Et donc, il y a plein de choses que je continue à faire tout seul. Et puis aussi, même pour l'édition des PDF, là, c'est à moitié automatique. Hein, je fais ça en latex. Mais parmi mes collègues, il n'y en a pas un sur 10 qui fait du latex. Donc, c'est compliqué. Voilà. Donc ça, il y a quand même beaucoup de points de difficulté, hein, dans le bilan. Et bon, pour ce qui est des perspectives, alors ce site a été développé avec des technologies de 2014, donc qui étaient très bonnes à l'époque, mais comme vous le savez, les technologies web, ça périme très vite, donc je vais m'atteler à un redesign complet du site bientôt. Et je me demande si je peux me permettre de passer quelques mois tous les 5 ans pour refaire le site complètement. C'est quand même, comme tout repose sur moi, c'est un peu embêtant. Donc je me pose la question, est-ce que je vais le faire ou est-ce que je vais chercher une autre solution? Et puis aussi, qu'est-ce qui se passerait, la question que je me pose, mais bon, c'est pas encore arrivé, hein, si ça devenait un succès, un fou, bon, ça n'arrivera peut-être pas. Hein. Voilà, donc plus de soumissions, c'est plus de travail, et donc c'est plus de temps. Là, j'y passe pas beaucoup de temps. Mais si jamais il devait y avoir plus de soumissions, il faudrait que je trouve quand même le moyen de m'appuyer plus sur le comité éditorial, que j'automatise plus de tâches. et peut-être que j'abandonne la production de fichiers PDF pour, pour le produit d'appel qui est les jeux de données 3D avec la petite notice là. Moi, je ne sais pas trop. Et puis vraiment pour le long terme, ah oui, et puis oui, peut-être pas héberger le site à l'université, mais peut-être faire appel à un hébergeur professionnel. Et puis au long terme, je me demande si je ne vais pas devoir, pour que ça continue à vivre, arrêter la solution vraiment maison, 100% maison, et tenter au moins soit d'intégrer des choses 3D à OJS pour bénéficier de la communauté de développeurs OJS et pas tout le développer tous les 5 ans. Quoi. Parce que c'est infernal. Donc, soit faire moi-même un plugin 3D à intégrer à OJS, soit essayer de les contacter pour qu'ils développent des nouvelles choses, soit essayer de les mettre en lien 3D Hop, qui est notre viewer 3D avec les membres d'OJS, ou bien si dans la salle vous avez des suggestions, je suis ouvert. Hein. Voilà. Ou encore, une autre solution possible, ce serait de faire vraiment appel à un publisher privé. Mais étant donné qu'on est quelque chose de petit, est-ce qu'on peut se permettre ça? Ça coûte pas très cher, mais nous, on n'a pas les moyens. Voilà. Et qui paierait? Est-ce que ce serait les auteurs ou nous, journal? Voilà. Pour le moment, je n'ai pas le budget, donc c'est pas possible. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention.